Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Et Yoma, page 62, Daf Samer Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Est-ce que quand la Torah demandait de faire brûler le taureau et le bouc qui ont été employés pour le service de Yom Kippour sur la à l'extérieur du Yerushalayim, à l'endroit verser la cendre provenant du Mizbeach. Est-ce que la Torah demandait de brûler tout un troupeau entier? Et quand même, pourtant nous voyons, selon l'avis de Rabbi Lazare de Rabbi Shimon, que dans le cas où le sang d'un de ces korbanot s'est renversé pendant le service, et donc il fallait en amener un autre pour le remplacer, alors c'était tous les animaux qui ont servi pour le service de Yom Kippour, devront être brûlés à l'endroit où était versée la cendre du Mizbeach. Donc nous voyons que la Torah ne parle pas de cas exceptionnels. Et même, selon l'avis de Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec l'avis de Rabbi Lazare et de Rabbi Shimon, c'était parce que ils considèrent que comme le sang s'était renversé au milieu du service, le korban peut être considéré comme un korban pasoul. Mais dans le cas du bouc émissaire, où lui-même n'a eu aucune raison de devenir pasoul, donc la Torah, qui ne parle pas d'un cas exceptionnel, on pourrait très bien concevoir qu'il faudrait tous les employer comme bouc émissaire. Alors, Rav Nachman a répondu à Rava, Midami, est-ce que tu peux comparer les halakhot concernant le bouc émissaire aux halakhot concernant les boucs qui ont été employés pour le service de Yom Kippour? Hatam, l'octivoto, à propos du bouc qui a été employé pour le service de Yom Kippour, où la Torah a dit qu'il fallait le brûler à l'extérieur du Yerushalayim où on versait la cendre provenant du Mizbeach, la Torah n'a pas employé le terme de auto, qui veut dire lui-même, pour insister que ce n'est qu'un seul korban qui sera brûlé de cette manière. Par contre, haha, à propos du bouc émissaire, la Torah emploie le terme de auto, quand la Torah dit le shalach auto l'azazel, pour l'envoyer dégringoler dans la montagne, c'était pour insister que ce n'est qu'un seul bouc qui sera employé comme bouc émissaire. C'est pourquoi la réponse est donc que ce n'est qu'un seul bouc qui sera employé comme bouc émissaire. Itma, une discussion entre Amoraïm. Donc Rav Papi Mishmed Rava Amar dit Rishon Meshaler. C'était le premier bouc qui était employé comme bouc émissaire. Rav Shimi Mishmed Rava Amar a dit Acharon Meshaler, c'est le dernier qui sera employé comme bouc émissaire. La Gemara demande Bishlama. On peut très bien comprendre que Rav Shimi Mishmed de Rava de Amar, qui a dit que Acharon Meshaler c'était le dernier qui était employé comme bouc émissaire, parce que Kassavar il pense, Ho'il Begamar Bokapara, que le dernier bouc c'est considéré comme le vrai Korban, parce que c'est par ses aspersions que se terminait le service de concernant ce bouc par lequel on obtient le pardon, comme nous l'avons vu précédemment. Et là, seulement Rav Papa Mishmed Rava, mais qu'à savoir qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'il il dirait que c'est spécialement le premier qui serait employé comme bouc émissaire? L'Agmar répond, savoir là que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi, d'Amar, qui dit mitzvah barishon. Toujours quand on a le choix de faire, d'employer deux objets pour une mitzvah, on emploiera toujours le premier qui se présente. L'Agmar demande, hé Rabbi aussi, où est-ce qu'on a vu que c'est Rabbi aussi pense une chose pareille? Il est ma Rabbi aussi des coupotes. Si tu me dis que c'est Rabbi aussi qui a parlé à propos des bacs servant à la mitzvah de Shkalim, nous savons qu'une fois par an, tous les bénis Israël devaient offrir une pièce d'un demi-shekel qui était amenée au Beth Amikdash, et les responsables du Beth Amikdash puisaient dans la chambre où était ramassé tout cet argent avec des bacs. Alors, Betnan, la Mishnah dans Maseret Shkalim dit Shalosh Kupot, Shel Shalosh Shalosh Zim. Il y avait trois bacs contenant chacun trois CA, chez Baem Tomi Metalishka, qu'on employait pour prélever dans la chambre où était stocké cet argent. Vahaya Katou Balem, Aleph Bet Gimel. Parce que chacun de ces bacs était écrit respectivement Aleph, Bet et Gimel. Betania, et il est écrit dans une breta, Amar Adi Rabbi aussi. Lama Katou Balem, Aleph Bet Gimel. Pourquoi sur ces bacs étaient inscrits respectivement Aleph, Bet et Gimel? Leda, Ezemehem Mitrema Rishon. Pour savoir quel des bacs a été employé pour le premier prélèvement, donc pour la première fois, les Havi et Mena Rishon, pour employé de l'argent de la première caisse pour offrir les korbanot. Chez Mitzvah Barishon, parce que il est une mitzvah d'employer toujours le premier objet qui se présente pour accomplir une mitzvah. Donc nous voyons d'ici que c'est toujours le premier objet qui se présente en premier, donc qu'on emploiera pour faire la mitzvah. Alors là aussi, le premier bouc sera employé pour le bouc émissaire. Alors il m'a répondu, non, c'est différent, parce que Dilma Bidna dit Chazai Kamaita, dans le cas de la bac qui était employé pour le Shkalim, en fait, c'est le premier bac qu'on emploiera, parce que quand le premier bac était utilisable pour acheter les korbanot, le Chazai Batraita, la deuxième n'existait pas encore, parce que dès qu'on a puisé de l'argent par le moyen du premier bac, on pouvait tout de suite employer cet argent pour acheter des korbanot, et le deuxième n'existait pas encore, on n'avait pas encore commencé à le puiser. Alors que dans le cas du bouc, puisque le service concernant le bouc émissaire ne pouvait être fait seulement quand le service du premier bouc a été terminé, il se trouve donc que tous les boucs pouvant être employés pour le bouc émissaire se présentent en même temps. Il n'y a donc pas de premier et pas de dernier. Donc il n'y a pas de raison d'employer spécialement le premier plus que le dernier. La Gemara dit effectivement de là il n'y a pas de preuve. Et là, Rabbi Yossi de Pessah. On apporte une preuve de Rabbi Yossi qui a parlé à propos du Korban Pessah. Il faut lire ici de Tania, comme on voit dans une braïta, Hamafrish Pisro, celui qui a désigné un agneau pour l'offrir en tant que Korban Pessah, Be'avad, et cet agneau s'est perdu. Ve'ifrish Acher Tartav, et le propriétaire donc a désigné un deuxième agneau pour l'offrir en tant que Korban Pessah, Be'acharkach Limtza Harishon. Et après, il a retrouvé le premier agneau qu'il avait désigné comme Korban Pessah. Beharé Shneem Omdim, il se trouve donc qu'il a deux agneaux pouvant être offerts comme Korban Pessah. Cette braïta qui ne précise pas quand le Korban Pessah a été perdu peut nous parler dans tous les cas. Donc même si le Korban Pessah a été perdu avant Erev Pessah à midi, moment où l'agneau est apte à être offert en tant que Korban Pessah. Il se trouve donc, dans ce cas, qu'à midi de la veille de Pessah, il y a deux agneaux qui sont aptes à être offerts en tant que Korban Pessah. Alors, la braïta continue. Edemhem Shirtze Akriv, il pourra choisir n'importe lequel des deux agneaux pour l'offrir en tant que Korban Pessah. Dibre Chachamim, ce sont les paroles de Chachamim. Rabbi Yossi Omer dit, Mitzvah Barishon, c'est une mitzvah d'employer le premier agneau qui a été désigné en tant que Korban Pessah pour l'offrir. De im haya sheni mufchar. Par contre, si le deuxième agneau était meilleur, plus beau, plus grand, mimenu yevenu, il offrira donc le deuxième. En tout cas, nous voyons ici les paroles de Rabbi aussi, que même dans le cas où, au moment où les korbanot peuvent être offerts, il y a deux qui se présentent, on choisira quand même le premier. Dans le cas du bouc émissaire, nous dirons donc la même chose. Et donc, selon l'avis de Rabbi aussi, ce sera le premier bouc qui a été désigné pour servir de bouc émissaire qui sera envoyé dégringoler dans la montagne quand le moment se présentera pour le faire. Nouvelle Mishnah. Shnei Seire Yom HaKippurim. Pour les deux boucs qu'il fallait offrir à Yom Kippur, Mitzvatam Sheyu Shneim Shavim, c'est la mitzvah est que les deux se ressemble, de maré, soit par l'aspect, ou de coma, soit par la taille, ou de damim, soit par la somme d'argent dépensée pour les acheter. Ou bil kechatam kechad, et en plus, la mitzvah est de les acheter tous les deux en même temps. Da'afalpi she'en shavim, shirim. Mais par contre, même s'ils ne se ressemblent pas, ils seront quand même kacher, ou bien, la kachechad ayom, bechad le machar, shirim. Mais s'il en a acheté un jour donné et le deuxième il a été acheté le lendemain, ces boucs seront aussi cachés. Met echad mehem, si un des deux boucs qui ont été choisis qui ont été achetés pour le service de Yom Kippour est mort, imachelo igril met, si le bouc est mort avant le tirage au sort, ikar zuglasheni, alors il achètera un deuxième bouc pour reformer à nouveau le couple de deux boucs. D'im Michel Grilmet, mais si un des deux boucs est mort après le tirage au sort, Yavizugacher devra amener un deuxième couple de deux boucs, Deagrilalem Betrila, et devra à nouveau procéder au tirage au sort. Veyomar, et le Kohen Gadol dira selon le cas, Im Shelchem Met, dans le cas où le bouc qui était désigné pour être offert en tant que korban dans le Beit HaMikdash est mort, alors le Kohen Gadol dira de la manière suivante, Veshala Alavagora Lachem, Ikem Tartov. Celui dont le sort a été désigné pour être offert en tant que korban, donc pour Hachem, remplacera le bouc qui est mort. Dim Shel Azazel Met, et si c'était le bouc émissaire, ou le bouc désigné à servir de bouc émissaire qui est mort, le Kohen Gadol dira de la manière suivante, Zeshala Alavagora Lazazel, Ikem Tartov. Le bouc, celui donc dont le sort a désigné pour servir de bouc émissaire, remplacera le bouc qui est mort. Vacheni est le deuxième, donc le bouc supplémentaire, la Gemara expliqua duquel il s'agit, il est Achistaev, sera envoyé au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut, Vimacher, et à ce moment-là, on le vendra, Viplutama, Vindava, et le produit de sa vente tombera dans la caisse d'Indava, sera utilisé pour offrir un corbanola. Chez En Khatat Tibur Meta, bien que, en général, la loi est qu'un korban khatat qui ne peut pas être offert devra mourir, la loi est qu'un korban khatat appartenant au public ne mourra pas, et c'est pourquoi donc, dès qu'on pourra le vendre, quand il aura un défaut, il sera vendu, le produit savant sera utilisé pour offrir un korbanola. Rabbi Yehuda Omer dit, Tamut, le korban supplémentaire, mourra, parce qu'il dit que cette loi, qu'un korban khatat qu'on ne peut pas offrir, doit mourir, s'applique même pour le korban khatat appartenant au public. Ve'od amar, et encore a dit Rabbi Yehuda, Nishpach hadam, si le sang du bouc qui devait être offert en tant que korban a été renversé, yamut amishtaleach, le bouc émissaire, donc le deuxième bouc de ce couple qui devait servir en tant que bouc émissaire devra mourir, on ne pourra pas l'utiliser, met hamishtaleach, si le bouc qui était désigné à être employé comme bouc émissaire est mort pendant au milieu du service, Ishafer Hadam, le sang du deuxième korban sera renversé, c'est-à-dire il faudra à nouveau apporter un couple de boucs et recommencer le service.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
La page d'Af Samurbet Amulbet. Tanu Rabbanan, nos Chachomim ont enseigné dans une breita. Le pasuk qui décrit le service de Yom Kippour dit Ikar Shnei Seirizim, il prendra deux boucs. Alors, la breita demande Miut Seire, Shnaim, au minimum, le minimum de Seire, ça veut dire bouc au pluriel. Donc nous comprendrons déjà qu'au minimum, il devrait avoir deux boucs. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous préciser que c'était deux boucs qu'il fallait offrir à Yom Kippour? La Braïta répond, Shiyu Shneem Shavim, ce terme de Shne donc nous enseigne que les deux boucs devront se ressembler. Minaim, d'où est-ce qu'on sait, Afalpi Shen Shneem Shavim Kshérim, que même s'ils ne se ressemblent pas, ils seront quand même kachers. Talmud Lamar, c'est pourquoi le Pasuk nous dit à plusieurs reprises dans la paracha, Sa'ir, Saïr. Donc la Torah nous parle plusieurs fois du bouc quand elle parle d'un des deux boucs. La Torah n'a pas besoin de préciser ce terme parce qu'en fait il est évident qu'on parle du bouc. Par exemple, celui qui sera employé comme bouc émissaire, la Torah aurait très bien pu dire on le prendra sans préciser qu'il s'agit du Saïr. Riba, ça vient nous inclure même dans le cas où les deux boucs ne se ressemblent pas. La Gemara demande, Tama de Rabbi Rahmana, donc on voit que ce n'est que parce que le Pasuk a utilisé un terme spécialement pour inclure le cas où les boucs ne se ressemblent pas, Ha lo Rabbi Rahmana, Ha Tamina Psulim. Mais si, nous voyons donc de là que si le Pasuk n'avait pas employé de terme pour inclure le cas où les boucs ne se ressemblent pas, on aurait pu penser que si les boucs ne se ressemblent pas, ils sont pas soules. Alors, Ikuba Menalan, d'où est-ce qu'on sait que d'où ce qu'on aurait pu savoir que le fait que les deux boucs devaient se ressembler est impératif? Alors l'Agma répond, Salkadasa Hamina, j'aurais pu penser que puisque la Torah a dit plusieurs fois Shne, Ktiv. C'est-à-dire, chaque fois que la Torah parle des boucs, elle emploie à chaque fois le terme de Shne, qui veut dire deux, alors que la Torah emploie le terme de Seiré, qui est au pluriel. On aurait pu donc penser que le fait que les boucs devaient se ressembler est impératif. C'est pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner le terme de Saïr, pour nous dire que même si les boucs ne se ressemblent pas, ils seront quand même cachés. D'ailleurs, t'as des Rabbi Rahmana Saïr Saïr. La Gemara demande, maintenant que la Torah emploie le terme de Saïr pour nous enseigner que même si les boucs ne se ressemblent pas, ils seront quand même cachés. Alors, Shne, Lamali, pourquoi à trois reprises la Torah emploie le terme de Shne pour nous enseigner qu'ils doivent se ressembler? La Gemara répond, Chad le Maré, un de ces psukim nous enseigne qu'ils doivent se ressembler dans l'aspect, de Chad le Koma, et un pasuk nous enseigne qu'ils doivent se ressembler aussi dans la taille, de Chad le Damim, et le troisième pasuk nous enseigne qu'ils doivent aussi avoir la même valeur d'argent. Tanya Namiachi. Nous voyons une braïta aussi, Gabé Kivse Metzora, à propos des moutons que le lépreux, une fois guéri, devait offrir au Betamigdash. Le pasuk dit, Yikar Shne Kvasim, il prendra deux moutons, Miut Kvasim Shnaim. Quand la Torah emploie le terme de Kvasim qui veut dire mouton au pluriel, il est évident qu'on a au minimum deux moutons. Matamud Lomar Shne, pourquoi la Torah nous enseigne le terme de Shne pour nous dire que c'était deux moutons que le lépreux, une fois guéri, devait offrir au Beit HaMikdash? La Braïta nous répond, Shiyu Shneim Shavim, ça vient nous enseigner que les deux moutons devaient se ressembler. Que même si les deux moutons ne se ressemblent pas, ils seront quand même kasher. Talmud Lomar, Keves, Riba. Puisque la Torah a employé aussi, quand elle parle d'un de ces moutons, le terme de Keves, donc le mouton en singulier, alors que nous savons bien que nous parlons de mouton, la Torah peut très bien dire Oto, par exemple, qui veut dire, en parlant de lui, en sachant que nous parlons du mouton. Alors ça vient nous inclure même le cas où il ne se ressemble pas. La Gemara demande, Tama de Rabbi Rahmana, donc nous savons, c'est à la fois que même si les deux moutons ne se ressemblent pas, ils sont cachers, seulement parce que la Torah a employé le terme de Keves pour nous inclure ce cas. Ha, lo Rabbi Rahmana, mais si la Torah n'avait pas employé le terme de Keves pour nous enseigner que même si les deux moutons ne se ressemblent pas, ils sont cachers, Havamin Absolim, j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas souples. Alors Ikuva Menalan, d'où ce qu'on aurait pu savoir que le fait que les deux moutons doivent se ressembler est impératif. La Gemara répond, Salkadata Hamina, j'aurais pu croire, Tihi Ektiv. La Torah dit au début du paragraphe relatif aux lépreux, Zot Tihi et Torah ta Metzora, ceci sera la loi à propos du Metzora. Donc le terme de Tihi qui est en plus pourrait nous dire que ce que la Torah enseigne à propos du lépreux est impératif. La Gemara demande, Behashta de Rabbi Rahmana Keves Keves, et maintenant que la Torah nous a enseigné par le terme de Keves, plusieurs fois, que le fait que les moutons doivent se ressembler n'est pas impératif, Tihi la Mali. Alors ce terme de Tihi, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? La Gemara répond, Les char Havayato Shel Metzora. Alors ce terme nous enseigne à propos des autres halakhot de Metzora, que ces halakhot sont impératifs, et on ne pourra pas les changer. Il faut lire ici, Vetania Nami, Gabel Metzora, Kia Gabna, et nous voyons une braïta aussi à propos du lépreux quand il guérit, aussi de la même manière. Quand la Torah parle des deux oiseaux que le lépreux devait offrir pour entamer la procédure de sa purification, la Torah dit Tziporim, ou Shte Tziporim, deux oiseaux, Miut Tziporim, Shtaim. Quand la Torah parle d'oiseaux au pluriel, donc nous savons qu'au minimum, nous avons deux oiseaux. Matalmud Lomar Shte, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser le terme de Shte pour nous préciser que c'est deux oiseaux que lépreux devait offrir? La Braïta nous répond, Sheyu Shteim Shavot, pour nous enseigner que les deux oiseaux devaient se ressembler. Uminaim Shapalpi Sheinam Shavot Kserot, d'autres pensent que même si ces deux oiseaux ne se ressemblent pas, ils sont quand même kachers. Talmud Lomar, pourquoi le Pasuk nous enseigne par la suite, Tzipor, à chaque fois qu'elle parle d'un des oiseaux, elle emploie le terme de Tzipor, alors qu'il est évident qu'on parlait des oiseaux. On aurait pu dire par exemple Oto, ou pour parler de lui. ça nous enseigne que riba nous inclut même le cas où les deux oiseaux ne se ressemblent pas. La Gemara demande Tama de Rabbi Rahmana. Donc nous savons le fait que même si les deux oiseaux ne se ressemblent pas, ils seront quand même kasher, juste par le fait que la Torah emploie le terme de tipor pour nous l'enseigner, pour nous l'inclure. Rabbi Rahmana, tsulot. Donc si la Torah n'avait pas employé le terme de tipor pour nous enseigner que même si les deux oiseaux ne se ressemblent pas, ils seront quand même kasher, nous aurions dit qu'ils ne seront pas saouls. Ikuba menalan, d'où est-ce qu'on aurait pu savoir que le fait que les deux oiseaux doivent se ressembler est impératif? Agma répond, sal kadata khamina, j'aurais pu penser, tihi ektiv. Au début du paragraphe relatif au Metsora, la Torah emploie le terme de tihi, qui est en plus, ça vient nous enseigner que ce que la Torah enseigne à propos du lépreux est impératif. C'est pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner ce terme de tzipor. Maintenant que la Torah emploie le terme de tzipor pour nous inclure même le cas où les deux oiseaux ne se ressemblent pas, tihiyeh la mali. Alors à quoi sert ce terme de tihiyeh? Agma répond, l'ishar havayato shel Metsorah. C'est pour nous enseigner à propos des autres halakhot que la Torah enseigne pour le lépreux quand il guérit, pour nous dire que ce qui est enseigné à propos du lépreux est impératif. Alors la Gemara demande, Yahi, si c'est comme ça, Gabet Tmidim Naminema, on n'a qu'à dire la même chose à propos du Korban Tamid qu'il fallait offrir quotidiennement, puisque le Pasouk dit à propos du Korban Tamid, Kvasim, tu offriras deux moutons quotidiennement. Alors quand tu parles de moutons, quand la Torah parle de moutons au pluriel, on peut très bien comprendre qu'au minimum, il y aura deux moutons qu'il faudra offrir. Matalmud lomar shnaim. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser que c'était deux moutons qu'il fallait offrir? Nous avons qu'à dire que shiyu shneim shavim, que les deux doivent se ressembler. Uminayin shaval pishem shneim shavim kshirim. Et d'où est-ce qu'on sait que même si les deux moutons ne se ressemblent pas, ils seront quand même kasher? Talmud lomar. Pourquoi le pasuk nous enseigne kebes? Quand elle parle de chacun des moutons qu'il fallait offrir le matin, respectivement le matin et l'après-midi, la Torah emploie le terme de Keves, Riba, ça vient nous enseigner que ça va nous inclure le cas où même où les moutons ne se ressemblent pas. Et donc, il sortirait de là que, ou le mitzvah, hachinami de bainan, qu'au moins, il y a une mitzvah que les deux moutons se ressemblent. La Gemara répond, Hahu mibaele, le terme de Shnaim, que la Torah emploie, est employée pour apprendre autre chose. L'Ek de Tanya, comme nous voyons dans une breta, Shnaim Layom, la breta interprète, Kenegedayom. Les deux moutons seront sacrifiés en face du soleil, le terme de Layom voulant dire ici le soleil. Ataomer Kenegedayom, est-ce que tu dis que, est-il vrai que l'interprétation du passage voudra dire que les deux moutons seront sacrifié en face du soleil, O eno ela chobatayom, ou bien cela voudra dire qu'il y aura deux moutons qui seront sacrifiés quotidiennement. La Breita répond, Kshu omer et akeves aechad taseba boker, quand le pasuk dit, et un mouton tu offriras le matin, let akeves ashmi taseben arbaim, et le deuxième mouton sera offert l'après-midi, hare chobatayom amou. Déjà la Torah nous a décrit ici que il y avait deux moutons qui devaient être offerts quotidiennement. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le début du passage qui nous dit qu'il y a deux moutons par jour? En fait, on interprétera le passage différemment. Kenegedayom, pour dire que les deux moutons seront sacrifiés en face du soleil. Ketzal, alors comment est-ce qu'on fera? Tamid shel shachar, le korban tamid qui était offert le matin. Haya nishrat al keren tzfonit maravit, était sacrifié proche du coin nord-ouest du Misbéar, de manière à ce que les murs est du Bétamigdash n'empêchent pas le soleil de taper sur le corban, sur le mouton. D'ailleurs, le Kohen qui faisait la Shrita devait se mettre en biais par rapport au corban, de manière à ne pas empêcher le soleil de taper directement sur ce mouton. Al Tabahachnia, la tête du mouton qui devait être sacrifié en tant que corban tamid, était coincée par le deuxième anneau situé au nord du Misbéar. En effet, nous avons vu déjà plus haut d'Af Tetzayin Amoud Bet qu'il y avait situé au nord du Misbéar 24 anneaux, chacun de ces anneaux était en fait un espèce de demi-cercle qui s'ouvrait par le moyen d'une charnière, et quand on le fermait, on coinçait comme ça la tête de l'animal pendant la shrita. Il y avait donc 24 anneaux, chacun de ces anneaux était destiné pour le service d'une des 24 équipes de service. Ils étaient disposés en 6 rangées de 4 anneaux, voire dans Maseret Midot, Perek Gimel, Mishnah He. Donc la shrita de ce korban tamid du matin était faite sur la rangée d'anneaux située le plus à l'ouest, et non pas sur le premier anneau qui était situé proche au Mizbeach, mais celle qui était un peu plus au nord, donc la deuxième, et cela parce que pour que le premier anneau puisse aider aussi le Kohen pendant la Shrita, on pouvait coincer les pieds de ce mouton dans cet anneau. Voir aussi le Tosfot et le Tosfot Eshani. Bechel Ben Arbaim et le Korban Tamid de l'après-midi, Hayam Ishrat al-Kerem Mizrachit Tzfonit, était sacrifié proche du coin nord-est du Mizbeach, donc sur la rangée est des anneaux situés au nord du Mizbeach, al-Tabat Shnia, sur la tête de ce mouton était coincée par le deuxième anneau de cette rangée, comme nous l'avons expliqué plus haut. Comme nous l'avons expliqué, nous apprenons cette halakha du terme de Shnaim Layom, donc du fait que le pasuk emploie le terme de Shnaim à propos du Korban Tamid, donc il n'y a aucune, on ne sait de nulle part, que les moutons devant servir pour le Korban Tamid devaient être égaux, devaient se ressembler. La Gemara continue, Musafin Shel Shabbat, les moutons, les deux moutons qui devaient servir pour être offerts comme Korban Musaf le Shabbat, Vadai Trichim Sheyu Shneim Shavim, il est évident qu'ils devront se ressembler, parce que la Torah dit dans Parashat Pinchas, ou Viyom HaShabbat Shnei Chevasim, etc., le jour du Shabbat, il faudra offrir deux moutons. Alors là, comme nous l'avons expliqué plus haut, puisque la Torah emploie le terme de kvasim qui veut dire mouton au pluriel, la Torah n'avait pas besoin de préciser qu'il y en avait deux. Puisque la Torah a précisé par le terme de shnei qu'il y avait deux moutons, nous comprenons que ces deux moutons devront se ressembler au moins pour la mitzvah. C'est-à-dire que s'ils ne se ressemblent pas, les moutons seront quand même kachers, mais il faudra, pour accomplir la mitzvah correctement, il faudra qu'ils se ressemblent. Nous avons fini le shiur de Yumad Asamer Bet.
Nous commençons le shiur de Yumad Asamer Gimel. Nous commençons d'Asamer Bet Amud Bet à 9 lignes du bas de la page. Tanu Rabana, nos Chachamim ont enseigné dans une breita. Dans la paracha de Acharemot, la Torah parle de l'interdiction d'offrir un korban à l'extérieur du Bet Amigdash. Celui qui transgresse cette interdiction sera passible de la peine de karet, de retranchement. Pour avoir transgressé cette interdiction, il faut réunir plusieurs conditions. Essentiellement, il faudra que cet animal qui a été offert en dehors du Beit HaMikdash, non seulement a été destiné à être offert comme korban, mais doit aussi être apte à être offert comme korban. Alors la Braïta a dit, « Shnei seirei yom ha-kippurim shishartan bachutz. » Si quelqu'un a sacrifié un des deux boucs destinés au service de Yom Kippur à l'extérieur du Beit HaMikdash, alors la Braïta a dit, « Ad shelo igri la lehen » Chayav al Shnem. Avant, s'il a sacrifié l'un des deux boucs avant d'avoir procédé au tirage au sort, il aura transgressé cette interdiction à propos de n'importe lequel de ces deux boucs. Mishay Gril Alehem, mais si il a sacrifié un des deux boucs à l'extérieur de Beit HaMikdash après avoir procédé au tirage au sort, Chayav al Shelchem, il aura transgressé cette interdiction sur le bouc qui était destiné à être offert en tant que korban dans le Beit HaMikdash, ou Patour. Al-Shel Azazel. Par contre, il n'aura pas transgressé cette interdiction s'il a sacrifié le bouc destiné à servir de bouc émissaire, parce que celui-là n'est pas destiné à être offert en tant que korban dans le Beit HaMikdash. La Gemara demande, Achelo Igril Alehem Chayav Al-Shneem. La Braïta dit que, s'il a sacrifié un de ces deux boucs avant d'avoir procédé au tirage au sort, il aura transgressé cette interdiction sur n'importe lequel des deux boucs. La Gemara demande, le Maïchazou, qu'est-ce qu'on aurait pu en faire? En d'autres termes, avant le tirage au sort, aucun de ces deux boucs n'est encore apte à être offert en tant que korban, et ce n'est qu'après le tirage au sort que celui destiné à être offert en tant que korban dans le Beit HaMikdash pourra être offert, mais avant,
aucun de ces deux boucs ne peut être offert. Donc finalement, cette personne a sacrifié un animal destiné à être korban, mais n'est pas encore apte à être offert en tant que korban. La Gemara répond: Amar Rabbi Rizda, Ho'il veraoui le seir hanaaseh bachutz. Il est vrai qu'au départ, quand ces deux boucs ont été achetés avec l'argent du Hekdesh, ils ont été destinés à l'offrande spéciale de service du Yom Kippour. Et donc à ce moment-là, avant le tirage au sort, ces boucs ne sont pas encore aptes à être offerts en tant que korban, mais leur utilisation peut être changée. Et en fait, on aurait pu l'utiliser pour l'offrir en tant que korban khatat du moussaf de Yom Kippour, qui lui est offert à l'extérieur du Echal. Donc le sang est aspergé sur le misbéach extérieur. Et lui, pour ce faire, il n'y a pas de tirage au sort. Et donc, dès maintenant, ce bouc est considéré comme étant apte à être offert en tant que korban. La Gemara demande: Umay shana, et quelle est la différence le sa'ir anaseh bifnim de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on dit que qu'en tant que bouc destiné à être offert à l'intérieur du Echal, donc dont le sang va être aspergé dans le Kodesh HaKodashim, de l'eau, on considère que avant le tirage au sort, il n'est pas apte à être offert en tant que korban, de Mokhusar Agrala, parce que le tirage au sort n'a pas encore été effectué. Le Seir, Hanaaseh Bachutz, Nami Lo Chazé. Alors aussi, maintenant, ces boucs ne sont pas encore aptes à être offerts en tant que korban Moussaf de Yom Kippour. Donc, c'est un bouc dont le sang sera offert et aspergé sur le misbéach extérieur, donc à l'extérieur du Echal, de Mechasre Avodatayom, parce que le service du jour n'a pas été encore effectué. Le korban moussaf était offert seulement après que le service spécial de Yom Kippour a été effectué. Donc là aussi maintenant, avant le tirage au sort, donc avant le service de la journée, ce bouc n'est pas encore apte à être offert en tant que korban moussaf. La Gemara répond: Kassavar, il pense Rav Chisda, en mechusar zman le bobayot. Le service de Yom Kippour n'est pas composé d'actions destinées à permettre l'offrande du korban moussaf, mais plutôt c'est un ordre simplement, bien qu'impératif, mais c'est un ordre fixé par la Torah d'action extérieure à l'offrande du korban. Nous considérons donc que par rapport à l'offrande du korban moussaf, que c'est juste le moment n'est pas encore arrivé pour l'offrir, mais lui-même est apte à être offert en tant que korban. Rav Chisda donc pense que le fait que le moment d'offrir le korban n'est pas encore arrivé pendant cette journée n'est pas considéré comme un défaut. Par contre, le tirage au sort est une action qui est destinée pour permettre l'offrande de ces deux boucs. C'est pourquoi, avant le tirage au sort, nous considérons que ces deux boucs ne sont pas encore aptes à être offerts. Amar a dit Ravina. Hashta de Amar, maintenant qu'a dit Rav Chisda, Mechusar Agrala, que Mechusar Maaseh Dami, que l'absence du tirage au sort, bien que ce soit une action extérieure au korban, entraîne une inaptitude de l'offrande du korban, comme nous l'avons vu. Donc, nous considérons que cette absence de tirage au sort, comme si c'était un manque d'une action dans le korban même. Alors, nous dirons la manière suivante. Ha de Amar, ce qu'a dit Rav Yehuda Amar Shmuel, Shlamim Sheshachtan Kodem Sheneftochud Latot Haechal Psulin. Que si quelqu'un, le Kohen, a sacrifié un korban Shlamim avant d'avoir ouvert les portes du Echal, ce korban est Pasul, Sheneemar. Parce que le Pasuk dit, dans Vaikra, à propos du korban Shlamim, Ushchato Pekach Ohel Moed. Et le sacrifiera devant l'orifice du Echal, du Ohel Moed, c'était le Mishkan. La Torah emploie le terme de Petach, qui veut dire un orifice. Ça nous laisse entendre qu'on parle d'un orifice ouvert et pas d'une porte fermée. On dira donc que Bizman Shu Patuach, la Shrita peut être faite quand la porte du Echal est ouverte, Velo Bizman Shu Naoul, et pas quand cette porte est fermée. Nous apprenons donc d'ici que l'ouverture de la porte du Echal permet l'offrande des korbanot en général.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.